On va écouter d'abord la présentation de Julie Bordier, donc la co-organisatrice de cette journée qui prépare pour sa troisième année une thèse intitulée « L'Église dans la guerre civile catalane 1461-1472 » sous la direction de Carlos Huch et de Stéphane Péquignot ici à l'ENSL et à l'EPHE. Donc elle va nous présenter une communication intitulée « Le chapitre de Barcelone pendant la guerre civile catalane 1462-1472, une institution en marge du jeu politique de la cité ».
Merci beaucoup à tous à nouveau d'être présents cet après-midi avec nous. Je vais ouvrir ma communication par cette petite citation que je vous ai mise en catalan sur le diaporama et que je vais vous lire en français. Le seigneur Don Juan de Beaumont, lieutenant général du seigneur roi dans le Principat de Catalogne, bannit de la ville de Barcelone et de tout le Principat de Catalogne les personnes mentionnées ci-dessous qui étaient en faveur du roi Jean. Mossèn Ramon Dussay, Mossèn Antoni Genel et Mossèn Joan Dalmau, tous chanoines de la cathédrale de Barcelone. Et leur fut ordonné que sous peine de mort, ils quittent la ville et en poursuivant leur chemin, se retirent de tout le dit Principat. Donc, le 14 février 1463, trois chanoines de la cathédrale de Barcelone sont ainsi bannis de la ville pour s'être montrés favorables au roi Jean II d'Aragon. Depuis le mois de juin 1462, Barcelone et l'ensemble du Principat de Catalogne sont en effet déchirés par une guerre civile qui oppose d'un côté le roi Jean II à de l'autre les principales institutions du Principat de Catalogne qui sont la Généralité, le Conseil de la ville de Barcelone et le Conseil du Principat. Pour comprendre les enjeux de ce conflit catalan pour le chapitre barcelonais, je vais commencer par donner quelques éléments de contextualisation sur cette guerre civile. Au XVe siècle, le Principat de Catalogne fait partie de la couronne d'Aragon, un ensemble de territoires qui, à la veille de la guerre civile, comprend également les royaumes d'Aragon, de Valence, de Majorque, de Sicile et de Sardaigne, ainsi que les comtés du Roussillon et de la Cerdagne. Chacun de ces territoires possède ses propres institutions, mais tous sont liés par un serment de fidélité au même souverain. À partir de 1458, il s'agit du Trastamar Jean II, qui devient roi suite au décès de son frère Alphonse V. Jean II arrive au pouvoir alors que le territoire est en proie depuis près de 80 ans à de profondes tensions politiques, économiques et sociales. Parmi les causes de cette agitation, on peut citer les rivalités entre les grandes familles nobles du pays, les luttes opposant les élites urbaines à la petite bourgeoisie et aux artisans pour le contrôle du gouvernement des grandes villes, en particulier celui de Barcelone, ainsi que les révoltes de paysans de Remensa contre la situation d'assujettissement juridique et les impôts et abus imposés par leurs seigneurs. Dans ce contexte déjà marqué par de profondes divisions, la situation bascule en décembre 1460 lorsque le roi d'Aragon Jean II ordonne l'arrestation de son fils, le prince héritier Charles de Vienne, qu'il soupçonne de conspirer contre lui avec le roi Henri IV de Castille. La nouvelle de l'arrestation du prince, ordonnée sans consulter les Corts catalanes qui sont alors réunies à Lérida, provoque un vaste mouvement de mécontentement et les institutions catalanes se révoltent une première fois contre Jean II. Jean II est forcé de libérer son fils, mais la mort prématurée du prince rouvre le conflit et en juin 1462, Jean II et son épouse Juan Enriquez sont déclarés ennemis de la chose publique. Donc dès lors s'ouvre une guerre civile de 10 ans et les institutions catalanes ne pouvant vaincre seules, elles vont pendant cette période offrir la couronne du territoire à trois princes étrangers successifs, d'abord Henri IV de Castille jusqu'en 1463, puis Pierre de Portugal jusqu'en 1466 et enfin René d'Anjou jusqu'en 1672. Donc quand je parle de roi, il peut s'agir à la fois de Jean II ou à la fois de ces rois dits intrus par les sources postérieures. Donc, cette guerre va entraîner des fractures et des scissions au sein de la société catalane tout entière, et ces divisions n'épargnent pas l'Église catalane. Le haut clergé se divise, les évêques prenant parti soit pour Jean II, soit pour les institutions catalanes. À l'échelle des institutions ecclésiastiques, l'unité de nombreux collectifs de chanoines et de frères se fracture, et ils se séparent parfois de leur évêque ou de leur abbé pendant plusieurs années. Pour le chapitre barcelonais s'ajoute une particularité. Il est ancré dans la cité qui est le siège des institutions catalanes qui se sont soulevées contre Jean II. Barcelone, qui est alors une cité forte d'une trentaine de milliers d'habitants, est en effet pendant la guerre le centre névralgique du conflit contre le monarque. C'est de la cité barcelonaise qu'émanent les directives politiques et militaires des institutions catalanes, de l'argent et des hommes pour mener les combats. et la ville est également assiégée à plusieurs reprises par les troupes de Jean II. Or, Barcelone est donc aussi le siège épiscopal du diocèse, et en tant que telle, elle est théoriquement le lieu de résidence de l'évêque, et elle accueille la cathédrale et le groupe de chanoines qui y est rattaché. Ce collectif de chanoines ou chapitres a pour vocation de seconder l'évêque, d'administrer les biens de la cathédrale et d'y assurer le culte solennel quotidien. Le chapitre se compose alors de 40 prébendes, c'est-à-dire la rente fixe qu'un chanoine perçoit pour assurer son service dans la cathédrale. Et au sein de la ville, les chanoines et l'évêque occupent le sommet de la hiérarchie ecclésiastique locale. Au-dessus d'eux se situe l'archevêque de Tarragone, puis directement le pape. À échelle locale, ils incarnent donc l'autorité la plus élevée de l'Église. Donc, le chapitre barcelonais, ancré dans l'espace urbain, est un interlocuteur régulier du conseil municipal et de la généralité de Catalogne. Et donc, comme le montre Julia Conessa, qui est parmi nous aujourd'hui dans sa thèse, les membres du chapitre sont insérés dans des sphères de pouvoir religieux et laïque qui dépassent largement les murs de la cathédrale. En tant que telle, entre 1462 et 1472, l'institution se trouve donc plongée dans la guerre civile. Et alors je le précise pas à chaque fois parce que c'est fréquent, mais mon travail part énormément des conclusions de Julia Conessa, notamment dans la partie de sa thèse qu'elle dédie aux années de la guerre civile. Donc la finalité de cette communication aujourd'hui, c'est d'interroger comment dans ce contexte le chapitre de Barcelone se positionne face à la guerre menée par les institutions catalanes et notamment par le conseil municipal barcelonais. L'objectif est de mettre en tension d'une part l'engagement politique dans le conflit de certains chanoines en tant qu'individus et d'autre part le positionnement du chapitre en tant qu'institution qui va se révéler surtout soucieux de défendre ses libertés et son patrimoine plutôt que l'une ou l'autre des façons en guerre. Malgré cette ligne adoptée par le chapitre, visant plutôt à rester à l'écart du jeu politique des pouvoirs séculiers, le chapitre ne peut tout à fait se maintenir en marge des enjeux de la guerre civile, qui affectent notamment ses finances et le service du culte de la cathédrale. Alors pour étudier cela, je m'appuie d'une part sur des sources émanant du chapitre de Barcelone, et en particulier sur deux registres, le Llibre de la Camisa et le Llibre de la Creuta, qui contiennent les comptes rendus des réunions du chapitre pendant la guerre civile. Et d'autre part, je m'appuie également sur des sources émanant des pouvoirs laïcs et des pouvoirs séculiers, et en particulier des registres de délibération et correspondance du conseil municipal de Barcelone, qui reprennent bien fréquemment également les délibérations de la généralité, l'autre institution qui mène cette lutte contre Jean II. Voilà. Bon, alors, ce qu'on observe d'abord dans ces sources, c'est que plusieurs chanoines s'engagent politiquement dans la guerre civile en tant qu'individus. Donc, comme je le mentionnais précédemment, au début du conflit, plusieurs chanoines sont déclarés ennemis du Principat de Catalogne par les pouvoirs séculiers. Donc, je vous ai mis quelques exemples de noms sur le PowerPoint. Cette déclaration s'accompagne toujours de leur exclusion de Barcelone et parfois de la saisie de leurs biens. À partir de 1466, les députés de la Généralité sont également autorisés, avec l'accord du chapitre de Barcelone, à saisir les prébendes de ces chanoines ennemis. La généralité prend également possession des maisons de certains chanoines ralliés à Jean II. Et donc, par exemple, celle du chanoine Joan Sorts est prêtée à l'épouse Duc de Cardona, qui est un noble catalan mort en servant le Principat de Catalogne. Au contraire, on trouve plusieurs chanoines barcelonais au service des institutions catalanes. Alors, l'exemple le plus frappant, c'est celui de Francesc Colom, qui est pendant la guerre civile député de la généralité pour le bras ecclésiastique, plus précisément de 64 à 67. Il occupe donc la plus haute fonction au sein de cette institution, qui est, je le rappelle, une des principales institutions catalanes qui mène cette guerre contre le monarque. Mais d'autres chanoines barcelonais sont aussi fréquemment désignés par la généralité pour faire partie de commissions chargées de missions variées. Donc je vous dis l'exemple par exemple de Joan Comes, d'Agustí de Lía et de Bernat Tor. Donc ces chanoines sont chargés d'importantes missions par les institutions. Donc, pour en donner quelques exemples, sur le plan diplomatique, les commissions auxquelles prennent part ces chanoines barcelonais sont chargées de négocier des libérations de prisonniers, de rédiger des lettres et des instructions d'ambassade. Ils sont parfois eux-mêmes nommés ambassadeurs. Sur le plan militaire, la généralité les mandate pour décider du financement de certaines opérations ou pour trouver plus de chevaux très fréquemment. Sur le plan stratégique, elle les charge de réfléchir aux moyens de couper toute forme de communication entre Barcelone et la faction ennemie. Entre des personnes résidant à Barcelone et la faction ennemie. Et sur le plan financier, ils font partie de commissions mandatées pour contrôler les dépenses au service de la généralité et pour administrer les biens saisis aux ennemis. Donc les registres de délibération et de correspondance des institutions catalanes montrent donc d'une part des chanoines barcelonais très engagés à leur service et au contraire des chanoines exclus de l'espace urbain de la ville et qualifiés d'ennemis. Ces voix discordantes au sein du chapitre affleurent également dans les comptes rendus des réunions du chapitre qui laissent deviner des divisions au sein de l'institution. Donc, par exemple, en mars 1472, quelques mois avant la fin de la guerre, le chapitre décrète dans un compte rendu du Libra de la Creuta que tout chanoine qui divulguerait le contenu des discussions menées lors des réunions du chapitre serait chassé de la cathédrale et privé de ses bénéfices ecclésiastiques barcelonais. Cette mesure est justifiée par le fait qu'en ces temps de guerre, on craint que ne surviennent de grandes discordes entre les cours et les personnes séculières d'une part et les hommes d'église d'autre part, et que les conséquences seraient particulièrement néfastes pour les libertés ecclésiastiques. Et donc, quand je parle de liberté ecclésiastique, je me réfère à l'ensemble des droits, des privilèges et des immunités qui sont reconnus à l'Église, donc comme par exemple son autonomie juridictionnelle, son immunité fiscale et matérielle, et son autonomie administrative et politique. Je le mentionne parce que c'est quelque chose qui va revenir très fréquemment dans la suite de cette communication. Effectivement, pour le chapitre barcelonais, c'est manifestement la défense de ces libertés ecclésiastiques qui prime, et non le soutien à l'une ou l'autre des factions en guerre. Le fait que les chanoines barcelonais prennent position à titre individuel ne signifie pas que le chapitre en tant qu'institution prenne position politiquement pendant la guerre civile. Et effectivement, dans les comptes rendus des réunions du chapitre, on ne trouve pas de revendication de positionnement politique vis-à-vis du conflit. On ne trouve pas non plus de condamnation des chanoines qui, en tant qu'individus, soutiennent soit Jean II, soit les institutions catalanes. Alors c'est peut-être lié à la nature de la source, mais par comparaison, dans les délibérations du Conseil de la ville, on trouve assez fréquemment des termes comme « enemics »,« acuidats », »,« traidors », de façon générale, et « ennemis »,« traîtres », qui sont appliqués aux partisans de Jean II, et parmi eux, aux chanoines barcelonais qui le soutiennent. Donc dans les délibérations capitulaires, au contraire, on ne parle pas de chanoines ennemis, on mentionne éventuellement des chanoines absents, donc ce qui peut peut-être recouper ces partisans de Jean II, mais sûrement pas essentiellement. On pourrait avoir aussi des chanoines absents de Barcelone sans que ce soit lié à une prise de position politique quelconque. Et pourtant, ça ne veut pas dire que le langage employé dans les comptes rendus des réunions du chapitre ne devienne pas parfois véhément. Les délibérations capitulaires ne sont pas exemptes de condamnations, mais ces condamnations ne visent pas l'une ou l'autre des factions en guerre, elles frappent avant tout les pouvoirs séculiers qui s'attaquent aux libertés et aux biens de l'Église. Donc, un exemple assez révélateur de ce que je décris, c'est celui du conflit entre le chapitre de Barcelone et en particulier l'un de ses vicaires qui s'appelle Joan Narcís Saplana et deux représentants des pouvoirs séculiers nommés Miquel Cardona, qui est officier de la cour séculière, et Joan Ros, qui est avocat fiscal du roi. Ces derniers ont usurpé les droits du chapitre en saisissant des portions canoniques qui reviennent quotidiennement aux chanoines pour leur subsistance. Le chapitre réagit en engageant une procédure contre ces deux hommes. Et en représailles, Miquel Cardona bannit publiquement le chanoine Joan Narcís Saplana de Barcelone. Et pour pouvoir rester à Barcelone, Saplana est contraint de révoquer la décision du chapitre à leur encontre. Dans l'acte capitulaire qui relate ce conflit, Miquel Cardona et Joan Ros sont qualifiés, donc je vous l'ai mis en latin sur le PowerPoint, mais ils sont qualifiés d'usurpateurs et de violeurs de la juridiction et des libertés ecclésiastiques, ainsi que d'envahisseurs, de ravisseurs, de détenteurs et d'occupants des droits de prééminence et des immunités ecclésiastiques. Donc, on voit ici de se dessiner un chapitre en lutte, non au sein d'une faction dans la guerre civile, mais contre les pouvoirs séculiers pour défendre la juridiction et les libertés de l'Église. La guerre civile, au contraire, ne semble pas être la lutte du chapitre en tant qu'institution. Et la capitulaire que je viens juste de citer nous apporte un autre élément en ce sens. Pour faire face aux usurpations commises par Miguel Cardona et Joan Ros, le chapitre a d'abord tenté d'obtenir de l'aide auprès d'autres pouvoirs séculiers, mais l'acte en question nous dit que l'aide humaine a fait défaut, et par conséquent, le chapitre décide d'implorer le secours divin. Pour cela, il ordonne que le psaume « Deus laudem meam neta queris »« Dieu ne garde pas silence à ma louange » soit récité lors de tous les offices, dans la cathédrale et dans toutes les églises de la ville. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans ce psaume, le psalmiste se plaint d'être calomnié et persécuté par des ennemis injustes. Il invoque Dieu pour qu'il prenne sa défense, rétablisse la justice et châtie les oppresseurs. Il s'agit donc d'un texte assez vindicatif, qui contraste avec les psaumes choisis pour d'autres offices liés à la guerre. Je vais revenir là-dessus par la suite, mais pendant la guerre, les institutions catalanes sollicitent régulièrement le chapitre barcelonais pour organiser des prières afin de protéger et de guider la ville et le Principat de Catalogne. Or, alors ça peut être un effet de source, hein, mais je n'ai jusqu'ici pas trouvé de mention de psaumes combatifs comme celui que je mentionnais précédemment pour des offices et des prières liées à la guerre. Il s'agit de textes dans lesquels on implore la protection divine, mais sans discours vindicatif impliquant des opposants, des persécutions ou une condamnation de la faction adverse. Autrement dit, la guerre civile ne semble pas être une lutte à laquelle l'institution prend part, à l'inverse d'autres luttes dans lesquelles elle s'implique, en particulier contre les pouvoirs séculiers qui grignotent ses libertés ecclésiastiques. Cependant, cela ne signifie pas que la guerre soit absente des délibérations capitulaires. Au contraire, elle y apparaît très fréquemment, en particulier en tant que cause de difficultés financières compromettant la gestion de l'institution. Donc, même si le chapitre semble plutôt se maintenir à l'écart du jeu politique des pouvoirs séculiers, il ne peut tout à fait rester en marge des enjeux de la guerre civile. Le conflit, en effet, affecte d'abord ses finances. À partir de 1467, le chapitre de Barcelone multiplie les mesures fiscales visant à répondre aux difficultés économiques auxquelles le chapitre fait face du fait de la guerre. Donc, pour ne donner que quelques exemples, le chapitre décide de réduire de moitié les salaires des procureurs et des administrateurs de l'Almoina, une institution qui dépend directement du chapitre cathédral, de ne plus faire de célébrations pour les âmes des chanoines défunts, et de retarder ou de suspendre la célébration de certaines fêtes, toujours du fait du déficit des revenus que le chapitre qu'entraîne la guerre pour le chapitre. La guerre affecte donc les finances du chapitre. Elle affecte aussi le service du culte dispensé par les chanoines. C'est le cas d'une part parce que le chapitre est très fréquemment sollicité par les institutions catalanes pour organiser des célébrations liées au conflit. De leur propre initiative ou sur la demande des institutions, les chanoines barcelonais mettent en place des prières quotidiennes adressées à Dieu, à la Vierge et à Sainte Eulalie. Ils organisent des jeûnes et des œuvres pieuses, toujours pour implorer la protection divine pour la ville. Les chanoines prennent également part aux cérémonies célébrant l'annonce de nouveaux rois choisis par les institutions catalanes, ainsi qu'aux cérémonies funéraires de ces souverains. Finalement, donc la guerre s'infiltre dans les finances du chapitre, dans les cérémonies religieuses et également dans les élections épiscopales. Pendant le conflit, les élections épiscopales deviennent d'importants enjeux pour les deux factions en guerre. Les évêques, et en Catalogne en particulier celui de Barcelone, contrôlent d'importants revenus, détiennent souvent la seigneurie temporelle sur des territoires et dans le cadre de la guerre civile peuvent participer à renforcer la légitimité de l'un ou de l'autre des camps. Pour ces raisons, placer un ecclésiastique de son camp à une dignité épiscopale est un enjeu d'importance et les deux factions en guerre ne s'y trompent pas. Pendant la guerre civile, les sources du chapitre évoquent une situation de sede vacante, de siège vacant à la cathédrale, c'est-à-dire que le siège épiscopal n'est pas pourvu. Et à deux occasions pendant le conflit, il apparaît comme un enjeu stratégique, enfin particulièrement stratégique et contesté. Donc ces deux occasions que je vous ai mis sur le PowerPoint, c'est d'abord en 1463, après la mort de l'évêque barcelonais Joan Soler, puis en 1468, après la mort de Joan Serra, qui avait été nommé évêque par le pape Pie II, mais qui n'avait jamais pu prendre possession de l'évêché. À ces deux occasions, Jean II et les institutions catalanes sollicitent tous les deux le pape pour qu'ils confirment leur candidat à l'évêché de Barcelone. Selon le droit canon, l'élection de l'évêque ab clero et populo est censée laisser la désignation du prélat entre les mains de son chapitre, mais au bas Moyen-Âge, cette prérogative a généralement été perdue de longue date par les chanoines, et c'est le plus souvent le roi qui propose son candidat et le pape qui le confirme, même si les conflits entre évêques et chanoines à ce sujet sont fréquents. Pendant ces deux temps de la guerre civile, les chanoines élisent toutefois leur candidat à l'évêché de Barcelone. Et bien que ni l'un ni l'autre ne soit confirmé par le pape, il est assez intéressant pour nous de regarder sur quels individus leurs choix se sont portés. Selon les délibérations du Conseil de la ville, en 1463, les chanoines de Barcelone élisent Cosme de Montserrat, qui est alors évêque de Vic et qui est l'une des figures de proue de la révolte des institutions catalanes contre Jean II. Quelques années plus tard, ils choisissent Miquel Torreyes et ils insistent pour justifier leur choix sur le fait qu'il est le fils du comte d'Isquia, qui est le lieutenant de Jean de Lorraine, le fils aîné du roi des institutions, et sur le fait que la position importante de son père permettra de défendre les intérêts du chef. Autrement dit, le choix des chanoines se porte sur deux figures politiquement impliquées dans le camp des institutions catalanes, mais aussi et surtout sur deux figures particulièrement puissantes, soit en elles-mêmes, soit par leurs liens familiaux. Et au regard de ce qu'on a vu précédemment, ce choix pourrait témoigner, plus que d'une prise de position politique du chapitre, d'une volonté de protéger l'institution dans un contexte particulièrement critique. Face à la fragilisation de ses immunités et de ses finances, le chapitre se choisit pour évêque une figure suffisamment puissante politiquement pour pouvoir défendre ses intérêts dans les tribulations de la guerre. Pour conclure, si pendant la guerre civile, plusieurs chanoines barcelonais prennent parti à titre individuel, le chapitre en tant qu'institution semble bien plutôt rester en marge de la lutte politique des institutions catalanes. La guerre a l'impact en ce qu'elle entraîne une fragilisation de ses finances et de ses immunités, et dans ce contexte, le chapitre lutte avant tout pour préserver ses libertés ecclésiastiques, sa juridiction et son temporel.